Il est 7h.
France Inter. Nicolas Desmorand. Le 7-9.
Soyez les bienvenus sur France Inter. Nous sommes le vendredi 13 novembre. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, le malaise dans les hôpitaux avec un nombre record de patients atteints du Covid-19 et un manque cruel de personnel. Pour lutter contre cette deuxième vague, le Premier ministre a annoncé hier soir un confinement qui ira au-delà du 1er décembre. Les détails en début de journal après les autres titres, Agnès.
Le Premier ministre, justement, il assume son rôle de porteur de mauvaises nouvelles, décryptage de l'intervention de Jean Castex hier soir. Parmi les mécontents, les petits commerçants qui restent fermés, nous entendrons la réaction des marchands de jouets, très inquiets bien sûr à 6 semaines de Noël. Nous irons au Maroc qui lance une campagne de vaccination. Quelle piste possible pour les 863 salariés de Bridgestone? Le site de Béthune va fermer. Et puis à l'instar de Guernica, une œuvre pour commémorer cette fois les attentats de Paris il y a tout juste 5 ans.
Et les invités et rendez-vous de France Inter ce matin à 7h45. Le débat éco du vendredi avec Thomas Piketty et Dominique Seux. Aujourd'hui, les enjeux économiques de la vaccination contre le Covid-19. À 8h20, le grand entretien de la matinale avec l'ancien président de la République, François Hollande. 5 ans donc après les attentats du 13 novembre. Le standard vous attend, il est ouvert. 01 45 24 7000.
France Inter.
Toutes les 30 secondes, un malade du Covid est hospitalisé en France. Résultat, un chiffre record d'hospitalisation, 32 292, chiffre qui n'avait pas été atteint lors de la première vague. Et le pic de la deuxième vague est encore à venir. Il devrait être atteint en début de semaine prochaine, a dit hier soir le Premier ministre. Des heures sombres en perspective donc pour les personnels hospitaliers déjà épuisés. Signe de ce malaise grandissant, les cadres de santé de l'hôpital de Nantes sont en grève aujourd'hui. Un malaise ressenti un peu partout en France. Alice Cachaner.
Ils ont l'impression d'être entre le marteau et l'enclume, répondre aux impératifs de la direction tout en manageant des équipes à bout de souffle.
Les cadres vont mal dans les établissements de santé.
Jacqueline Le Pennec du syndicat CFE-CGC à l'hôpital de Nantes.
Un cadre passe maintenant 80% de son temps à gérer l'absentéisme. Tous les arrêts ne sont pas remplacés. On ne remplace pas un pour un. Donc on aggrave encore la situation. On est en souffrance d'imposer des choses qui ne sont pas tolérables à nos équipes.
Selon cette cadre, sur les 10 000 personnels de santé que compte l'hôpital de Nantes, 1 000 seraient en arrêt maladie chaque jour. En plus de ce taux d'absentéisme, s'ajoutent des difficultés de recrutement. Concrètement, aujourd'hui, il faut faire plus avec moins de bras, jongler en permanence avec les plannings, imposer des heures supplémentaires, des méthodes qui posent un problème de conscience à Fabienne Aymard, cadre de santé à l'hôpital de la Timone à Marseille.
Je suis harcelante, je les rappelle sur leurs jours de repos. Alors quand je pars du travail, je suis souvent pas très fière de ce que j'ai fait. J'ai un sentiment de maltraitance de mon équipe et qu'on joue souvent sur la culpabilité des agents. Des fois, on a le sentiment qu'on leur demande d'être corvéable à merci.
Pour ces cadres de santé confrontés à la deuxième vague du Covid-19, il est urgent de réenchanter l'hôpital public et de juguler la crise des vocations.
Le Premier ministre a donc pris la parole hier soir. Rien ne change durant les 15 prochains jours. Les signes d'amélioration sont encore trop ténus. Ils doivent être consolidés. Après le 1er décembre, les petits commerces pourront rouvrir si la situation le permet. Mais bars et restaurants resteront fermés. Les salles de sport et de spectacle aussi. Et il faudra toujours une attestation pour circuler. À l'approche des fêtes de Noël, la colère monte pour les propriétaires de magasins de jouets qui réalisent 60% de leur chiffre d'affaires en novembre et décembre. Franck Maté est le porte-parole de Jouet Club.
On craint des faillites dans notre profession, puisque nous faisons 60% de notre chiffre d'affaires sur la saison de Noël. Donc aujourd'hui, le problème de tous les commerçants, c'est comment je vais faire face à mes échéances de stock. Il y a dans les magasins de jouets pour plus de 1 milliard d'euros de stock de jouets aujourd'hui. Donc qui va payer ce milliard d'euros à l'ensemble des fabricants? Et donc on voit là que c'est l'ensemble de la filière jouets qui est concernée. Et puis c'est aussi une catastrophe pour les clients, parce que ils vont avoir finalement 24 jours si on considère qu'il y aura une réouverture le 1er décembre pour faire leurs achats de Noël, quand on sait qu'habituellement ils les font sur une période de plus de 2 mois. Donc ça veut dire qu'il y a une concentration de fréquentation qui est organisée par le gouvernement, qui se fait au détriment de la sécurité sanitaire qui est prônée dans toutes les actions qui sont décidées aujourd'hui. Donc c'est une véritable incompréhension pour nous commerçants et c'est aussi une véritable incompréhension, les clients nous le disent tous les jours, pour l'ensemble des consommateurs.
Témoignage recueilli par Philippe Lefebvre. Pas de changement dans les établissements scolaires, les lycées restent ouverts avec la possibilité de proposer la moitié des cours à distance, ce que certains établissements ont encore du mal à organiser. Les collèges continuent d'accueillir tous les élèves. Les droits à l'assurance chômage sont prolongés pour les chômeurs en fin de droit. Nous verrons le détail dans le journal de 7h30. Et puis le télétravail est plus que jamais encouragé. Personnel de santé épuisé, petits commerçants en colère, enseignants inquiets. Résultat, un Premier ministre de plus en plus impopulaire, mais qui endosse le costume sans broncher. Maxence Lambrecq.
Pas le moindre assouplissement, aucune dérogation et très peu de perspectives pour Noël. Le Premier ministre assume d'incarner une forme d'austérité.
Mon rôle n'est pas aujourd'hui de céder à la pression, de faire ce qui serait espéré par beaucoup.
Il porte les mauvaises nouvelles, les justifie et concentre donc les critiques. Son impopularité ne cesse de progresser et il a l'air de s'en moquer.
La seule courbe qui m'intéresse, c'est celle des malades admis à l'hôpital ou en réanimation.
Jean Castex dépolitise sa fonction, il se présente comme un rempart.
Mon devoir est de vous protéger contre le virus et ses ravages.
Ce faisant, il protège aussi le président Emmanuel Macron, accusé en ce moment d'abandonner le Conseil des ministres au profit du Conseil de défense en petit comité. Jean Castex n'y voit aucun problème.
Il n'y a rien qui me paraît contrevenir à la séparation des pouvoirs et au rôle normal dévolu tant au pouvoir législatif qu'au pouvoir exécutif.
Et face à des oppositions virulentes et des théories complotistes, il réplique aussi.
Ne nous y trompons pas. L'ennemi, ce n'est pas l'État ni le gouvernement, c'est le virus.
Le Premier ministre, paratonnerre du chef de l'État, la 5e République toujours d'actualité.
Maxence Lambrecq. 4 jours après l'espoir suscité par l'annonce du laboratoire Pfizer sur l'imminence d'un vaccin contre le Covid efficace à 90%, les dirigeants européens ont insisté hier sur la nécessaire mobilisation en faveur d'un vaccin pour tous. C'était lors du Forum de Paris pour la paix. Et certains pays ont déjà commencé à vacciner. La Chine et le Maroc. Le roi Mohamed VI ordonne une vaste campagne de vaccination qui doit débuter dans un mois. Les premiers concernés seront les personnels de santé, les forces de l'ordre, les enseignants ou encore les chauffeurs routiers. Et c'est le vaccin du chinois Sinopharm qui a été choisi pour débuter. Cédric Ralfi.
10 millions de doses du vaccin du chinois Sinopharm et 17 millions de doses du vaccin d'AstraZeneca. C'est ce que le Maroc a réussi à obtenir de ses partenaires pharmaceutiques tout en continuant de nouer des accords avec d'autres laboratoires. À raison de 2 injections par personne, il y a de quoi couvrir 1/3 de la population dès le mois de décembre. Il s'agit d'un vaccin à l'ancienne, porteur de souches inactives du Covid. Pour les obtenir, le Maroc aura dû conclure des partenariats stratégiques. Des volontaires ont dû prendre part aux phases de test et les vaccins devront être produits localement au plus vite via un transfert de technologie, une manière de pousser en avant la coopération sud-sud. Les Marocains se posent quant à eux les questions de l'obligation de vaccination et des conditions de distribution. Et c'est par la voix du ministre de la Santé que les réponses sont venues. Il n'y aura pas d'obligation, mais une campagne visant à obtenir 80% de vaccination dans la population. Quant à la distribution et particulièrement au respect de la chaîne du froid, le vaccin nécessitant de très basses températures, c'est l'armée qui sera mobilisée. Casablanca, Cédric Ralfi, France Inter.
Fermeture des bars et restaurants à 22h à New York, appel au reconfinement à partir de lundi à Chicago, confinement et couvre-feu en Grèce, transport public suspendu pour 2 semaines en Slovénie, reconfinement envisagé au Liban. Chaque pays tente de faire baisser la courbe des contaminations. Ce qu'est en train de faire l'Allemagne avec les premiers signes d'amélioration, la courbe s'aplatit. Bars, restaurants et équipements collectifs sont fermés pour un mois.
Il est 7h09, Agnès, quel avenir pour le site de Bridgestone?
Car l'usine de Béthune va fermer, le constructeur de pneus japonais a rejeté hier la proposition du gouvernement. Résultat, 863 salariés sur le carreau. L'équipementier affirme que 4 projets de reprise bien définis sont sur la table. La réalité est un peu différente, Maxime Debs.
Ces 4 projets dont parle Bridgestone ne sont en fait que des notifications d'intérêt tempère de suite Bercy. Des acteurs pas fermés en quelque sorte à l'idée de s'implanter sur le site si demain ils en avaient la possibilité. Mais cela ne veut absolument pas dire que tout ça va se concrétiser. C'est plutôt « on regarde de loin pour l'instant, après il faut discuter », commente un conseiller au ministère qui suit le dossier. Parmi ces 4 acteurs, on trouve, dit-il, des industriels dans le secteur du pneu, de la logistique, voire dans le recyclage de batteries. Alors qu'à 20 km de Béthune doit s'ouvrir en 2023 la Gigafactory annoncée par PSA et une filiale de Total, usine qui fabriquera justement des batteries pour les véhicules de demain. Ça aurait du sens, oui, mais tout ça est prématuré et conditionné aussi au montant du chèque que Bridgestone consentira à mettre sur la table pour la revitalisation du site. Ça fait partie de ses obligations. Sur ce point, Bercy prévient qu'il veillera au grain.
C'est fait, Jean-Luc Mélenchon a obtenu les 150 000 signatures qu'il souhaitait pour lancer officiellement sa candidature pour la présidentielle de 2022. Le leader de la France insoumise a entamé une tournée médiatique. Nous y reviendrons dans le journal de 8 heures. Emmanuel Macron se déclare aux côtés de l'Arménie. Le chef de l'État a reçu hier soir les représentants de la communauté arménienne de France, dont le fils de Charles Aznavour et le footballeur Youri Djorkaeff. Paris devrait envoyer dans les prochains jours un avion cargo rempli d'aide humanitaire pour Erevan.
Et enfin, il y a 5 ans, le 13 novembre 2015, les attentats de Paris au Stade de France, aux terrasses des restaurants du 10e arrondissement et au Bataclan.
130 morts, des centaines de blessés, le plus lourd bilan que la France ait jamais connu dans une attaque terroriste. Hommage réduit en raison de la crise sanitaire. Officiels et représentants des victimes se recueilleront sur les lieux des attaques. Hommage en musique aussi, avec une œuvre originale du compositeur franco-libanais Béchara El Khoury, intitulée « Il fait novembre dans mon âme ». Cette œuvre, Stéphane Capron, a été commandée par la mère d'une victime, Louise Albertini, qui a perdu son fils, âgé de 39 ans. Il était au Bataclan.
C'est à Madrid, devant Guernica de Picasso, que Louise Albertini a l'idée de cette commande.
Suite à l'émotion que ce tableau avait suscité, il nous est venu à l'idée que peut-être que l'État pourrait faire une commande d'une œuvre d'art comme le gouvernement des Républicains espagnols avait fait à l'égard de Picasso.
Elle écrit à Emmanuel Macron qui ne donne pas de suite, alors elle se tourne vers la Fondation de France et son action des nouveaux commanditaires qui missionne Bruno Messina pour accomplir le projet. Leur choix tombe sur le compositeur franco-libanais Béchara El Khoury.
Il s'est avéré que l'idée d'un poème symphonique, d'une œuvre longue, d'un seul tenant, serait la bonne œuvre, comme une sorte de discours, comme ça. Et puis qu'il y aurait une voix de femme. Il voulait une voix de femme, mais il ne voulait pas de texte. Il ne voulait pas que ce soit signifiant, que chacun puisse poser ses mots.
Les stèles sont importantes pour mettre les noms, mais une œuvre musicale, c'est mettre de l'art qui nous amène au-delà des événements stricts. C'est donner une autre dimension aux événements. Parce que c'est vraiment l'œuvre qui va nous aider à dépasser l'horreur de ces moments-là.
Louise Albertini souhaite que cette œuvre soit jouée partout dans le monde pour honorer Stéphane, son fils, et toutes les victimes du terrorisme.
Ce concert hommage est retransmis ce soir à 20h30 sur le site et l'application Philharmonie Live et sur Arte Concert. Et puis, les Queens of the Stone Age, dans lequel jouaient également Jess Hughes des Eagles of Dismetal, le groupe de rock qui était sur la scène du Bataclan le soir des attentats, donne également à 18h un concert acoustique inédit sur sa chaîne YouTube au profit d'associations des victimes de l'attentat.
Et les attentats du 13 novembre, on en reparlera à 8h20 avec François Hollande. Merci Agnès Soubiran.